Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Tosserie.
Audience générale, comme chaque mercredi au Vatican, le monde, l'homme et la foi, l'athéisme qui rend indifférent à Dieu, voici les thèmes développés par Benoît XVI dans sa catéchèse. La force militaire internationale au Mali est prête, elle attend le feu vert de l'ONU pour se déployer dans le nord du pays. Nous avons recueilli la réaction du père Edmond Dembélé, le secrétaire de la conférence épiscopale malienne. Et puis, clin d'œil à la fin du magazine, les cloches de Notre-Dame ont été changées, quel sera leur destin ? Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. Le monde, l'homme et la foi comme autant de réponses à l'athéisme qui rend indifférent à la transcendance et à la question de Dieu et porte à un mode de vivre destructeur, voilà ce que Benoît XVI a développé dans sa catéchèse ce mercredi lors de l'audience générale. L'homme séparé de Dieu, a déclaré le pape, est réduit à la seule dimension horizontale, comme dans les totalitarismes qui ont eu des conséquences désastreuses durant le siècle dernier. Partant de Saint-Augustin pour sa réflexion, Benoît XVI a regretté que de nos jours, la foi est souvent contestée, refusée et mise à l'épreuve, comme s'il fallait l'isoler du quotidien. Écoutons le pape s'adresser aux pèlerins francophones.
Si Dieu perd sa place centrale, l'homme lui aussi perd sa juste place dans la création et dans ses relations. C'est pourquoi l'Église ne cesse d'affirmer inlassablement la vérité sur l'homme et sur son destin. Avec elle, nous sommes appelés à répondre avec courage à l'athéisme, au scepticisme et à l'indifférence, en nous appuyant sur trois réalités, le monde, l'homme et la foi. Le monde est habité par une intelligence créatrice. L'homme porte en lui-même une soif de l'infini qui le pousse à chercher quelqu'un, Dieu, qui seul peut combler son vide. La vie de foi pour conduire pour sa part à la connaissance de Dieu. La foi chrétienne ne peut pas être réduite à un simple système de croyances, de valeurs. Le christianisme est avant tout l'événement de l'amour, l'accueil de Jésus, vrai homme et vrai Dieu. C'est pourquoi le chrétien et les communautés chrétiennes doivent avant tout regarder le Christ et le faire connaître, lui qui est le vrai chemin qui conduit à Dieu.
La force militaire internationale au Mali est prête, elle attend le feu vert de l'ONU pour se déployer dans le nord du pays. Un sommet de la CEDEAO a approuvé dimanche dernier l'envoi de 3300 militaires pour combattre les réseaux terroristes présents dans la région. Cette annonce a été accueillie favorablement par la population. Selon le secrétaire de la conférence épiscopale du Mali, le père Edmond Dembélé, les gens attendaient depuis longtemps une réaction forte de la part de l'État et des organisations internationales afin de faire face à la crise dans le nord du pays. D'autant plus que dans la région, les denrées de première nécessité commencent à manquer. Écoutez sa réaction au micro de Thomas Chabol.
La population malienne, dans une certaine majorité, a accueilli favorablement cette décision de la CEDEAO. Parce que le Mali pense que la crise commence à trop durer, les Maliens le pensent, et que donc il faut trouver une solution, ou une solution politique, ou une solution militaire. Et beaucoup de Maliens pensent qu'aujourd'hui, la solution politique n'est pas facile à trouver. Il ne sera pas facile de trouver, s'entendre politiquement avec tous les groupes qui sont au nord. Et donc, il y en a qui pensent, et c'est ce que je disais, c'est une certaine majorité, qu'il nous faut l'aide militaire de la CEDEAO, de la communauté internationale, pour justement solutionner cette crise.
Quelles nouvelles avez-vous de la situation dans le nord du pays ? Quelle est la situation ?
La situation dans le nord du pays n'est pas très reluisante. Depuis le début de la crise, nous savons bien que les populations qui vivent dans cette région souffrent beaucoup, souffrent des exactions commises par les groupes armés qui y sont, souffrent aussi de la crise humanitaire en termes d'insuffisance de nourriture, en termes d'insuffisance d'eau potable et en termes de maladies aussi. Donc la situation n'est pas très réduisante et c'est pourquoi je crois que beaucoup de gens pensent qu'il est temps vraiment de solutionner la crise pour que ceux qui sont au nord puissent retrouver la paix, la joie de vivre et puissent retrouver aussi donc leur sérénité d'avant.
Comment l'Église fait face à cette situation ?
L'Église catholique au Mali fait face à la situation d'abord en essayant de prier. C'est d'abord ça, la première action qu'elle a entreprise, prier. Prier pour le retour de la paix, prier pour que l'entente et l'unité reviennent dans le pays, prier pour que les Maliens puissent vivre ensemble dans la confiance totale. Donc ça a été la première action que l'Église a entreprise dès que la crise a commencé. Et ensuite, l'Église s'est investie beaucoup dans toutes les rencontres auxquelles elle a été invitée pour apporter ses idées, pour apporter un message, pour essayer de réconcilier un peu tous les acteurs de la crise. Donc l'Église a été très active sur le terrain des négociations, sur le terrain des concertations. Et également, elle a plusieurs fois lancé des appels aux différents acteurs de la crise et à l'ensemble de la population malienne à travers donc des communiqués, à travers des messages télévisés, messages écrits. Donc pour que les Maliens en général, les chrétiens en particulier, chacun puisse contribuer à la paix par son comportement et par ses propos.
Est-ce que le dialogue interreligieux, le dialogue avec l'islam est encore plus important aujourd'hui ?
Oui, justement, les évêques pensent que le dialogue avec l'islam est beaucoup plus important et beaucoup plus urgent aujourd'hui qu'hier. Parce que la situation que nous vivons ici, et nous montre que justement le dialogue interreligieux dans notre pays doit être renforcé. Nous avons besoin de renforcer la confiance entre l'ensemble des Maliens. Nous avons besoin de dialoguer avec les autres religions pour que chacun sache qu'on peut pratiquer sa religion dans le respect de celle de l'autre et vivre ensemble. Donc le besoin de renforcer le dialogue interreligieux se fait beaucoup plus pressant aujourd'hui qu'hier. Et les évêques l'ont compris. Ils l'ont exprimé à travers leurs interventions et ils travaillent aussi à cela. Et aujourd'hui, cela date déjà de quelques années, l'Église catholique avec les autres confessions chrétiennes ainsi que le Haut Conseil islamique du Mali travaillent ensemble dans le cadre d'une alliance des leaders religieux. Et cette alliance des leaders religieux tient très souvent des rencontres et essaie de travailler la main dans la main pour que justement, les confessions religieuses au Mali vivent en paix ensemble.
Est-ce que vous avez un message particulier à faire passer aujourd'hui ?
Le message particulier que je vais faire passer aujourd'hui, c'est un appel à la paix. Aujourd'hui, tous les Maliens aspirent à la paix. La crise que nous vivons commence à durer, comme je l'ai dit au début pour beaucoup de gens. Elle a fait déjà beaucoup de victimes et si nous ne prenons garde, elle risque de diviser davantage la société. Et nous n'avons pas intérêt à ce que cela se produise. Donc, l'appel que je lance aujourd'hui, qui est celui que les évêques ont lancé il y a quelques semaines, c'est un appel à la paix, c'est un appel au dialogue entre tous les acteurs de la crise, entre tous les protagonistes de la crise, afin que nous puissions parvenir à une solution rapide et urgente. C'est un appel à l'entente et à l'unité, parce que nous avons besoin de cela justement pour aller de l'avant, pour développer notre pays. Et cet appel que les évêques ont lancé, c'est celui-là que je reprends aujourd'hui, et en souhaitant qu'il soit entendu et que dans quelques semaines, notre pays retrouve la paix et la stabilité.
En Afrique du Sud, la police a arrêté ce mardi une trentaine de travailleurs pour violence. Les forces de l'ordre sud-africaines ont fait usage de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants qui avaient bloqué une route menant à la mine de Kroondal, exploitée par Xstrata, qui a licencié 400 mineurs il y a une semaine pour grève illégale. Anglo-American Platinum est de son côté toujours en négociation pour obtenir le retour au travail de 30 000 travailleurs actuellement en grève illégale dans différentes mines sud-africaines. Le numéro 1 mondial du platine a proposé pour la première fois une hausse de salaire pour tenter de mettre fin à la grève sauvage initiée il y a deux mois. en plat est la dernière grande compagnie minière encore paralysée par cette vague de grève sauvage qui a débuté dans le sang à Marikana en août dernier. Ce conflit social a fait au total une soixantaine de morts, dont 34 mineurs de l'Omnine abattus par la police à Marikana. Écoutez l'analyse du frère Mike Dibb, secrétaire général de la commission Justice et Paix d'Afrique du Sud.
Il y a beaucoup de frustration. Et je crois que les choses sont en train de se radicaliser beaucoup. C'est pourquoi c'est un moment assez dangereux, parce que ce que les travailleurs revendiquaient, ils pensent que c'est possible. Ce qui se passait à Marikana a donné beaucoup de courage à beaucoup de travailleurs pour savoir que la situation d'injustice n'est pas acceptable. C'est difficile pour nous pour juger très bien ce qui est possible, ce qui n'est pas. C'est un moment assez délicat parce que la revendication, dans un sens, est très juste parce que l'inégalité est terrible. Mais dans un autre sens, on ne sait pas si ce que les propriétés disent, c'est la vérité ou non, parce qu'ils disent qu'on ne peut pas se vivre si on paye comme ça. Ce sera compliqué pour trouver une solution pour tout.
La population sud-africaine, comment vit-elle ce conflit social? Elle est plutôt loin de ses préoccupations ou au contraire très inquiète face à ce qui est en train de se passer?
Je crois qu'une grande partie de la population soutient les travailleurs qui sont en grève, mais la population est divisée. Les gens qui sont plus riches ou passent moyens, ils ne sont pas très contents d'entendre que les gens sont en grève. Donc pour eux, sans comprendre bien le problème de l'inégalité, sans accepter cette réalité ou avoir connaissance de tout ça, ils seront contre la grève. Parce que pour eux, la grève apporte division et ils ne sont pas très contents. Et je crois que beaucoup de travailleurs, et ils sont la plupart du pays, je crois qu'ils soutiennent les travailleurs.
Des propos recueillis par Hélène Destombes, et la grogne sociale, elle, s'est étendue au secteur agricole. De nouvelles violences ont éclaté ce mercredi près du Cap. Une personne a été tuée durant des manifestations d'ouvriers agricoles en grève qui réclament une augmentation de leur salaire. Le gouvernement, qui a tardé à réagir au conflit minier, semble en revanche adopter une tactique différente à l'égard des travailleurs agricoles. La ministre de l'Agriculture, Tina Jomet-Peterson, a fait remonter le dossier au niveau du président Jacob Zuma et du ministère du Travail. Elle a réclamé une renégociation anticipée du salaire minimum agricole après plusieurs réunions infructueuses avec les employeurs, soulignant les horaires lourds, mais aussi les conditions de vie, de logement, d'accès à l'eau potable qui ne sont pas décentes. L'agriculture sud-africaine emploie près de 700 000 personnes. Plus de 1500 jeunes catholiques du Moyen-Orient se rencontreront à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, du 15 au 17 novembre pour 3 jours de réflexion et de prière. Ils reviendront sur l'année de la foi et ses significations pour les croyants de cette ère. Le thème de la conférence, tiré de l'Évangile selon saint Marc, est en effet « Tout est possible à celui qui croit ». La conférence est organisée par les vicariats apostoliques d'Arabie du Nord et d'Arabie du Sud et se déroulera dans la cathédrale Saint-Joseph d'Abu Dhabi. L'assemblée sera présidée par Mgr Paul Inder, vicaire apostolique d'Arabie du Sud, et Camillo Balin, vicaire apostolique d'Arabie du Nord. Les jeunes catholiques résidant dans les 2 vicariats apostoliques d'Arabie sont principalement des immigrés provenant de différentes nations du monde, en majorité des Philippines, d'Inde, du Pakistan, du Sri Lanka, de Syrie, du Liban ou encore de nations africaines. La conférence se conclura par un concert intitulé « Rejoice » auquel participeront des musiciens chrétiens de renom international, une première dans la péninsule arabique. Cela prouve-t-il que la liberté religieuse est respectée dans le pays? Écoutez la réponse de Mgr Paul Inder au micro de Thomas Chabol.
Pour moi, ça fait partie aussi un peu du programme de l'année de la foi dans l'Église catholique, mais surtout de donner l'occasion à la jeunesse appartenant à l'Église catholique de se rencontrer ici où nous vivons, où ils peuvent aussi échanger avec les expériences qu'on fait ici. Si on a un bon nombre de jeunes qui participent chaque fois à la Journée mondiale de la jeunesse, par exemple même l'année prochaine à Rio, c'est quand même un nombre très réduit et la plupart n'ont pas les moyens ou la possibilité d'y participer. Alors on fait cela un peu aussi comme une sorte de journée mondiale régionale, si vous voulez, ici dans les pays où nous vivons.
Est-ce que le fait que cette rencontre puisse avoir lieu à Abu Dhabi, est-ce que pour vous c'est le signe aussi qu'il y a un respect de la liberté religieuse dans le pays, en tout cas plus de respect de la liberté religieuse en ce moment dans le pays ?
Bah, de toute façon, nous jouissons de ici, dans la plupart des Émirats, de ces Émirats unis, une liberté de culte qui est comparé à d'autres pays extraordinaires. Alors là, il n'y a pas un problème majeur pour organiser une chose pareille. Évidemment, il faut toujours le faire dans un style qui respecte un peu l'environnement. Par exemple, je leur ai dit, écoutez, il ne faudra pas faire trop de bruit, mais autrement, normalement, on obtient, si on a besoin des permissions, les permissions sans trop de problèmes. Ici, disons sur le compound de la paroisse, de toute façon, nous sommes libres d'organiser des choses pareilles. Il nous a fallu une permission particulière pour le grand événement vendredi soir au stade. Évidemment, pour cela, il faut la permission, mais on l'a obtenue alors.
Clin d'œil pour conclure ce magazine dans un article publié le 11 novembre dernier sur le site internet du quotidien français Le Figaro. On pouvait lire que la guerre des cloches de la cathédrale Notre-Dame de Paris était déclarée. En cause, selon le quotidien, l'avenir incertain des quatre cloches de la tour Nord. Le 21 février dernier, elles avaient été déposées en vue d'être remplacées par 8 autres l'an prochain à l'occasion du 850e anniversaire de l'édifice. Retour sur cette affaire avec Bernard de Cotigny.
Notre-Dame est à faune. Ses cloches vont être remplacées l'an prochain à l'occasion du 850e anniversaire de la cathédrale. Offertes par Napoléon III en 1856, elles ont retenti pour célébrer les événements les plus marquants du XXe siècle, de l'armistice de 1918 à la visite de Jean-Paul II en 1980, en passant par la libération de Paris en 1944. Mais après deux siècles de bons et loyaux services, elles sonnaient faux. Le bronze de mauvaise qualité ne permettait même pas de les reconvertir ou d'en faire un objet d'exposition. L'évêché avait donc invoqué une complète restauration du paysage sonore d'un coût de 2 millions d'euros. En attendant, les quatre cloches Angélique-Françoise, 1915 kg, Antoinette-Charlotte, 1335 kg, Hyacinthe-Jeanne, 925 kg et Denise-David, 767 kg, attendent d'être fondues. Une triste destinée à laquelle ne se résout pas l'Institut religieux Sainte-Croix de Riaumont dans le Pas-de-Calais. Alain Hochmiller, le père prieur, dénonce un vandalisme inutile et se propose de les récupérer pour leur offrir une deuxième vie. C'est le début d'une polémique avec l'archevêché de Paris qui refuse de revenir sur la décision de fondre ces précieux témoins de l'histoire. Il finit par invoquer l'État, propriétaire des cloches depuis 1905. L'avocat de la communauté a donc formulé une requête afin de les placer sous protection judiciaire en attendant que le conflit soit résolu. Chacun donne de la voix dans cette guerre des cloches désormais silencieuse, si seulement elle pouvait parler.
Et en attendant que le sort d'Angélique Françoise, Antoinette Charlotte, Hyacinthe Jeanne et Denise David soit décidé, c'est le samedi 2 février 2013 que les nouvelles cloches seront dévoilées au public afin d'être bénites. Elles sonneront pour la première fois le 23 mars 2013 pour la solennité des rameaux. Ainsi prend fin ce magazine, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas notre site internet www.radiovaticana.va ainsi que notre toute nouvelle page Facebook.